écoutez RFI, il est 20h ici à Paris, 19h en temps universel.
Mathilde Cariou.
Des centaines de projectiles libanais dans le ciel et israélien cet après-midi. Le Hezbollah revendique la destruction de chars installés près de la frontière. C'est la faillite morale de la France insoumise. Réaction des élus de tous bords après cette proposition LFI d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Nous reviendrons également sur les élections en Uruguay avec, comme partout, le thème de l'insécurité au cœur de la campagne. Et puis sur cet accord enfin trouvé à la COP29 qui est loin de satisfaire les pays en développement. Le son strident des sirènes d'alarme qui retentit dans le nord d'Israël. Plusieurs centaines de projectiles se sont abattus à quelques kilomètres de la frontière cet après-midi, lancés depuis le sud du Liban. Bonsoir Michel Paul.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous.
Vous êtes en direct de Jérusalem. L'armée israélienne a répondu avec de nouveaux tirs sur Beyrouth et ce soir, une réunion sécuritaire a lieu à Tel Aviv pour préparer la suite de cette guerre au Liban.
Oui, plus de 300 tirs depuis le Liban, des roquettes et aussi des drones, quelques 500 alertes en Israël qui ont envoyé 1 million d'Israéliens dans les abris, dans le nord du pays, en Galilée, mais aussi dans le centre, dans les banlieues de Tel Aviv, et même dans le secteur de Toul Karem en Cisjordanie, où une roquette s'est abattue en milieu d'après-midi. En tout, une dizaine de blessés, mais surtout des dégâts matériels importants. C'est la journée la plus intense depuis le 7 octobre dernier, relèvent les médias ici ce soir. Et cela fait suite aux frappes israéliennes, notamment à Beyrouth, tout au long de ce week-end, également d'une intensité sans précédent. Alors ce soir, une réunion sécuritaire autour du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il s'agit de finaliser un arrangement politique. Le feu vert a été donné au médiateur américain Amos Hochstein pour poursuivre ses efforts. Mais en attendant, Israël entend bien poursuivre et même intensifier ses attaques pour marquer des points sur le terrain. Et ce soir, Mathilde, une source militaire israélienne le souligne, en cas d'échec des efforts de médiation, eh bien Israël pourrait s'en prendre aux infrastructures libanaises.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem pour RFI. Et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, est à Beyrouth. En ce moment, il appelle à un cessez-le-feu immédiat et au strict respect de la disposition 1701, à savoir que seuls les casques bleus et l'armée officielle libanaise soient déployés le long de la frontière et non pas les forces d'Israël et du Hezbollah. Beyrouth, où les fouilles se poursuivent ce soir après le bombardement du quartier de Basta. Hier, le bilan est revu à la hausse, avec désormais 29 morts et 67 blessés. Enfin, ça n'est pas officiellement de la censure, mais plutôt de la rétorsion. Le gouvernement israélien demande à ses agences de ne plus communiquer avec le journal Haaretz, classé plutôt à gauche, ou du moins en opposition avec Benjamin Netanyahou. Situation tendue au Pakistan. Une trêve d'une semaine annoncée après les affrontements de ces derniers jours entre sunnites et chiites. Au moins 82 morts. La semaine de pause doit permettre l'échange de corps et de prisonniers. Une quinzaine de personnes sont portées disparues dans les deux camps. Ça, c'est pour le nord-ouest du pays. Et dans la capitale, Islamabad, c'est l'état de siège. Le régime a coupé les réseaux mobiles et internet, alors qu'une manifestation est prévue aujourd'hui pour la libération de l'ancien premier ministre Imran Khan, actuellement en prison. Des liens qui se resserrent entre la Russie et la Turquie. Recep Tayyip Erdogan a évoqué, je cite, l'expansion des échanges commerciaux lors d'un appel avec Vladimir Poutine. Ankara n'est pas officiellement un allié du Kremlin. Au contraire, elle a condamné l'offensive russe en Ukraine. Cependant, elle dit adopter une position neutre entre les deux pays et ne s'est pas jointe aux sanctions de l'Occident contre Moscou. En France, les insoumis de plus en plus isolés avec cette proposition qui fait polémique, celle d'abroger le délit d'apologie du terrorisme. Une proposition de loi en ce sens a été déposée en début de semaine car LFI estime que ce délit est trop souvent instrumentalisé, notamment pour empêcher des événements en lien avec la guerre à Gaza. Mais le texte fait vivement réagir et pas seulement à droite, dans l'ensemble de la classe politique, Grégoire Motte.
Une proposition de loi ignoble pour le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Une insulte, abonde Gabriel Attal, chef de file des macronistes. Olivier Faure, chef du Parti Socialiste, est lui plus mesuré. S'il faut protéger les libertés publiques, il faut aussi protéger les Français du fanatisme. Mais pour la France insoumise qui est à l'origine de ce texte, ce délit d'apologie du terrorisme introduit dans la loi en 2014 est dangereux pour la liberté d'expression. Il souhaite le supprimer. L'ex-candidat Nouveau Front Populaire et avocat Raphaël Kempf, spécialiste spécialiste des libertés fondamentales, est lui aussi critique vis-à-vis de ce délit.
La loi du 13 novembre 2014 a permis de juger en comparution immédiate des personnes à qui étaient reprochés des faits d'apologie du terrorisme. Ça a soustrait le jugement des abus de la liberté d'expression aux juridictions qui sont spécialisées selon une procédure spécialisée.
Avec selon lui un effet liberticide, il estime que le droit français est déjà suffisamment armé avec la loi sur la liberté d'expression de 1881.
Si demain vous avez quand même quelqu'un qui fait de l'incitation au crime de terrorisme, eh bien cette personne pourra toujours être poursuivie sous l'empire de la loi de 1881. Il n'y a absolument aucune difficulté là-dessus.
C'est sous le coup de cette loi que plusieurs insoumis avaient été inquiétés pour leur prise de position à l'issue des attaques du 7 octobre.
Et toujours au volet politique, un sondage publié dans la Tribune dimanche indique que 53% des Français sont favorables à une motion de censure du gouvernement Barnier sur la question du budget. Marine Le Pen, qui se targue d'avoir droit de vie ou de mort sur ce gouvernement, sera reçue demain matin à Matignon. Jour de vote en Uruguay, deuxième tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Les candidats de la coalition de droite et de l'opposition de gauche sont au coude à coude dans les sondages et comme souvent, le thème qui a monopolisé la campagne, Théo Conscience, c'est l'insécurité.
Principale préoccupation des Uruguayens, l'insécurité a occupé une bonne partie du débat télévisé entre les deux candidats cette semaine. Celui de la coalition de droite au pouvoir, Alvaro Delgado, a insisté sur le bilan du gouvernement sortant en la matière.
Pour la première fois depuis 1984, ce gouvernement va laisser au suivant moins de délits que quand il est arrivé au pouvoir. Pourquoi ? Parce que nous faisons confiance à la police. En matière de légitime défense, nous avons alourdi les peines, nous avons renforcé les moyens techniques, les équipements, les salaires et la police a agi.
Son concurrent Chamandou Orsi n'a pas manqué de rappeler que si les agressions et les vols ont diminué, le gouvernement n'a pas réussi à réduire le nombre d'homicides, notamment ceux liés au narcotrafic. Pour le candidat de la gauche, la sécurité n'est pas seulement une question de répression.
Il y a des aspects dans la sécurité qui n'ont pas seulement à voir avec le ministère de l'Intérieur. Bien sûr, soutenir la police est la première et principale des priorités, mais il faut aussi améliorer l'accès à la justice et mieux travailler à la réhabilitation dans les prisons.
En 5 ans, la population carcérale uruguayenne a augmenté de 45% et est aujourd'hui l'une des plus importantes au monde si on la compare à la population du pays. Pour les experts, la surpopulation carcérale favorise la récidive qui atteint en Uruguay 70% des sortants de prison. Théo Conscience, Buenos Aires. RFI.
Et lors du choix également en Roumanie, les premiers résultats de l'élection présidentielle, ou du moins du premier tour, sont attendus dans la soirée. Et scrutin à fort enjeu puisque le climat social est tendu et pourrait favoriser la victoire du candidat d'extrême droite, Georges Simion, qui remettrait fortement en cause le soutien à l'Ukraine. Les participants à la COP29 ont fini par accoucher d'un accord la nuit dernière à Bakou, avec un objectif financier légèrement revu à la hausse pour les pays du Nord, 300 milliards de dollars par an d'ici 2030. Un compromis déplorable, estime Rebecca Thyssen du Climate Action Network, car les pays en développement demandaient le double.
Un compromis qui se moque tout simplement des pays en développement, qui ne répond à aucun des besoins qui avaient été mis sur la table depuis des mois. Le texte qui a été adopté aujourd'hui est inadéquat en termes de quantité, donc on ne répond tout simplement pas aux besoins des pays en développement en parlant de 300 milliards de dollars d'ici à 2035, et très important en termes de qualité. On ne sait pas combien de dons on aura, quelle sera la définition du financement climat. Tout ça a été laissé à une interprétation large. Le plus gros risque dans cet accord, au-delà des chiffres, c'est la question de la responsabilité. On ne sait pas qui va être responsable de cet accord, on ne sait pas qui va devoir payer et on ne sait pas qui va mettre de l'argent sur la table. Et ça, ça laisse présager que dans les 10 prochaines années, on va avoir des montants extrêmement faibles, totalement inadéquats, qui vont faire que renforcer les vulnérabilités des pays en développement.
Qui doit payer ? C'est les pays développés ?
Les pays développés sont censés être ceux qui, selon l'accord, doivent prendre les devants. Mais prendre les devants, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc on s'attend à ce que les pays en développement doivent eux aussi contribuer à la même échelle que les pays développés, alors qu'on sait très bien que le ciment de l'accord de Paris, c'est la justice climatique et la responsabilité historique des pays les plus riches.
Rebecca Thyssen au micro de Jeanne Richard, notre envoyée spéciale à Bakou. Enfin, c'est un retour de bâton pour les magasins Carrefour au Brésil. Le gouvernement de l'État agricole de Mato Grosso appelle au boycott de l'enseigne sur tout le territoire. Et pour cause, le groupe a annoncé qu'il ne vendrait pas de viande brésilienne en France, et ce, même en cas de signature de l'accord avec le Mercosur. C'est la fin de ce journal. Prochain point sur l'actualité dans une petite heure. Vous écoutez RFI, il est 20h10 ici à Paris.